Premier dimanche du Grand Carême, c'est celui qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie. Pourquoi cela ? Je rappelle, il s'agit de la victoire de la juste foi sur toutes les hérésies qui ont fleuri au cours des temps. Le prétexte, en particulier, c'est le retour du culte des icônes à Constantinople l'année 843. C'était précisément le premier dimanche de Carême cette année-là. Depuis cette date, on fait mémoire tous les ans de la victoire des iconodules sur les iconoclastes, par une procession que nous ferons à la fin de la liturgie avec des icônes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des icônes, je voudrais parler plus en profondeur du carême que nous avons entrepris depuis une semaine. Il y a un livre qui nous accompagne jusqu'à Pâques et qui renferme des trésors de préceptes, de conseils, de prières. C'est celui qu'on appelle le triode. Malheureusement, le triode n'est guère utilisé pour la divine liturgie du dimanche, parce que celle-ci, la liturgie, commémore essentiellement la résurrection. Le triode est utilisé abondamment pour tous les autres offices de la semaine, qui sont pas très peu célébrés ici. Le triode est consacré presque totalement au repentir. Au repentir parce que le carême, c'est avant tout le temps du repentir. Repentir qu'on appelle aussi métanoïa. Métanoïa en grec, c'est-à-dire le changement d'esprit, de mentalité. Et au laude, par exemple, du dimanche de carnaval, on disait la métanoïa est la reine des vertus. Elle est indispensable au salut car elle engendre toutes les autres vertus. L'entrée dans le carême correspond à l'ouverture de ce qu'on peut nommer les portes du repentir. À partir du moment où on commence à utiliser ce livre du triode, c'est-à-dire le dimanche du publicain et du pharisien, ça fait déjà quelque temps. Alors, on n'a plus de matine aussi, en raison du Covid, on nous a demandé de faire des offices courts, et cet office aujourd'hui va être relativement long, parce que c'est la liturgie de Saint-Basile, comme tous les dimanches de Carême, et le canon de Saint-Basile est long, comme vous savez. Mais c'est un beau poème, il faut écouter dans toute sa beauté, sans penser, oh là là, qu'est-ce que c'est long, est-ce que c'est bientôt fini. Voilà, ce tropaire, ouvre-nous les portes du repentir, qu'on chante normalement aux matines, le chœur va le chanter pendant la communion, vous pourrez l'entendre. Le repentir, dit saint Isaac le Syrien, c'est la porte de la miséricorde. Chez les pères et à travers l'action de la miséricorde de Dieu, le repentir, c'est le chemin pour chacun de nous de la restauration de sa vocation divine, la fameuse image de Dieu que nous portons tous, mais qui a été tellement amochée, je dirais, qu'elle est devenue méconnaissable. La métanoïa, elle est destinée à redorer, si je puis dire, cette image. C'est un retour de la grâce du baptême, disent aussi les pères. Elle est plus grande que le baptême, dit même Siméon, le nouveau théologien, car elle est une source de larmes qui jaillit après le baptême et lave tous les péchés. La métanoïa, donc le repentir, exprime un retournement totale de notre être dans son mouvement de retour vers Dieu et récapitule plusieurs attitudes successives. D'abord, il y a la prise de conscience de notre état de pécheur qui nous conduit à accomplir un premier mouvement de retour sur nous-mêmes, puis un retour sur nous-mêmes, puis elle-même à la conversion et au retour à Dieu, qui est entériné, ratifié, si vous voulez, par la confession de nos péchés. Le terme de ce parcours, c'est le pardon divin. Le fondement du repentir consiste à s'identifier spirituellement au Fils prodigue. Vous vous souvenez qu'on a fêté le Fils prodigue, on a commémoré le Fils prodigue, et ce faisant, en s'identifiant au Fils prodigue, on se reconnaît pécheur. C'est-à-dire, on réalise combien on s'est éloigné du Père céleste. Le intropère des Lodes de ce jour-là dit: « Père bon, je me suis éloigné de toi, ne m'abandonne pas, ne me juge pas indigne de ton royaume. L'ennemi perfide m'a dépouillé et m'a dérobé tout mon bien, et comme un débauché, j'ai follement dispersé mon trésor spirituel. » Au début du repentir, après qu'on ait pris conscience de son péché et franchi la première étape du mouvement de conversion, alors le retour du fidèle à lui-même, c'est la conversion vers soi-même. Le triode nous exhorte à pénétrer dans la chambre de l'âme, au plus profond de nous, dans notre intimité. Le carême est un mouvement particulièrement favorable pour revenir à soi, se dégager des illusions du monde, se libérer du repliement égoïste sur soi-même, pour revenir à se connaître soi-même au moyen du jeûne, de l'ascèse, de l'humilité. Aussitôt qu'un homme se retire des hommes, c'est-à-dire s'isole, affirme saint Isaac, et se concentre sur lui-même, les mouvements du repentir se montreront eux-mêmes dans son intellect, dans son intelligence profonde. Le retour à soi-même constitue un premier pas du retour à Dieu dans les larmes du repentir. Ces larmes, elles peuvent être réelles, physiques, mais bien souvent à nous, et j'entends quelquefois certains qui se disent « je n'ai pas de larmes ». Oui, et ce n'est pas forcément des larmes physiques. Ce sont ces larmes dont les pères parlent. La première étape, je dirais, c'est de revenir en soi-même, profondément dans son cœur. En se concentrant sur soi-même pour y sonder la profondeur de son péché et y trouver la réalité de son être, nous atteignons déjà le premier but de la métanoïa. C'est convertir son cœur, c'est changer radicalement sa vision du monde, c'est revenir en soi-même après avoir rétabli une juste considération de la vérité des choses. On retrouve ainsi le dynamisme originel de sa nature pour amorcer la phase active du repentir, c'est-à-dire la conversion, le retournement. Dès qu'il eut réalisé son état d'exil et entrevu la possibilité du retour chez son père, le prodigue abandonna spontanément le péché et les passions, symbolisés par la nourriture des cochons. Aussi, l'entrée sur le chemin du repentir est-elle marquée par un indispensable renoncement au péché. Il faut avoir une vision claire de soi-même, ne pas chercher à se justifier. Cette manie que nous avons tous de chercher un responsable, de s'auto-justifier. C'est une sorte d'orgueil qui perpétue l'attitude des premiers parents d'Adam et Ève après qu'ils eurent transgressé le commandement divin. La faute n'entraîna pas alors un châtiment immédiat. Je vous engage à lire, comme le prescrit l'Église, la Genèse. On lit en ce moment la Genèse tous les jours un petit peu, et vendredi on lisait justement ce passage du Dieu après la faute, Dieu qui marche dans le jardin et qui dit « Adam, où es-tu ?» Adam, où es-tu? C'est une interrogation, une question qui se pose à chacun de nous-mêmes. On peut mettre son prénom dans cette question-là. Hein. Pierre, Paul, Jacques, quel est notre nom? Où es-tu? Voilà. Et Dieu propose à Adam de se repentir en reconnaissant seulement sa responsabilité dans le péché qu'il venait de commettre. Mais Adam refusa cette avance que Dieu lui proposait. Hein. Il esquive. Il renie, d'une certaine manière, sa liberté en essayant d'échapper à la confession, et il reporte sur Ève toute la responsabilité de leur commune transgression. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ce fruit à manger. Et Ève, à son tour, elle accuse le serpent. Elle ne consentit pas à l'humilité qui consisterait à déclarer « Pardonne-moi ». J'ai fauté. Seule la confession rend le repentir effectif, tangible. Sinon, ça peut être de limiter à une élucubration intérieure. À la confession, le triode, je reviens à lui, recommande de joindre la prière et l'imploration de la miséricorde divine, car le pardon, c'est le fruit de la miséricorde et non du repentir. Le repentir est indispensable et nécessaire. Un père de l'Église, Marc Lemoine, dit « Dieu qui est si bon, si généreux, si miséricordieux, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est de pardonner s'il n'y a pas eu de repentir. » Et voilà, le repentir, c'est l'étape nécessaire. Mais la miséricorde, c'est pas le repentir qui l'opère, c'est le Seigneur. Le canon de saint André de Crète, qui fait partie aussi du triode et que nous avons lu les quatre premiers jours du carême, les quatre premiers jours de la semaine passée, dit dans l'un de ses tropaires: « Je me prosterne devant toi, Jésus, j'ai péché contre toi, sois-moi propice, retire de moi le lourd carcan du péché et comme miséricordieux, donne-moi les larmes de la compunction. » La compunction, on en parlera une autre fois. La métanoïa, de repentir, donc c'est un retournement, un passage des ténèbres, de nos ténèbres intérieures à la lumière. Et c'est une anticipation de la Pâque du Christ qui nous fera passer de la mort à la vie, de la terre au ciel, comme on chante aux matines de Pâques. C'est la fête des fêtes et elle n'aura au fond ni signification ni effet spirituel s'il n'y a pas cette petite Pâque du repentir que nous sommes appelés à vivre tout au long de ce carême, jour après jour. Dans la parole du Fils prodigue, le repentir se présente comme un échange dans lequel l'homme et Dieu jouent chacun un rôle nécessaire et irremplaçable. Il est du pouvoir de l'homme de descendre en lui-même et de révéler ses actions cachées. Mais seul Dieu couronne le repentir en lui pardonnant ses péchés et en le relevant de sa chute. La conversion résulte d'une action commune, de la coopération de l'homme et de Dieu. En quittant la terre étrangère des passions pour revenir chez son père, le prodigue a provoqué la miséricorde divine en lui offrant l'occasion de se manifester. Et le père vient au devant du fils pour le recevoir dans ses bras, Comme il était encore loin, dit l'Évangile, son père l'aperçut, fut pris de compassion, courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Voilà l'action du Père. Dès que nous commençons ce mouvement, alors, même si nous n'en avons pas conscience, si nous ne nous en rendons pas compte, Dieu voit, apprécie ce mouvement. Et peut-être va-t-il se jeter à notre cou et nous couvrir de baisers, nous aussi. La métanoïa détruit radicalement le péché et change les ténèbres en lumière par l'effet de la grâce divine. Dieu seul, bien sûr, peut pardonner, en respectant toutefois la liberté de sa créature. Il attend patiemment que l'homme accomplisse le premier pas de ce retour. Comme dit le prophète Ézéchiel dans cette parole que on dit à la prière de confession. Ainsi dit le Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse de sa voie mauvaise et qu'il vive. Plus précisément, c'est le Christ par son économie qui nous conduit au repentir et nous convertit à lui, car il veut sauver tous les hommes. L'homme est semblable à la brebis perdue que le Christ, le bon pasteur, vient rechercher. Selon l'exégèse traditionnelle transmise par le Triode, la parabole du fils prodigue est en effet le condensé de l'économie de la rédemption, c'est-à-dire du salut. La hâte du Père qui vient au-devant de son fils repentant en lui, tendant les bras, symbolise la condescendance du Verbe qui vient par l'incarnation au-devant de l'homme déchu. Le Christ étendit ses bras sur la croix pour manifester son amour pour toute l'humanité et la ramener dans le sein paternel en la déifiant, comme le Père de la parabole étendit les bras pour recevoir tendrement son Fils. Le Christ est aussi représenté par le veau gras immolé, image de l'agneau et objet de la joie éternelle des invités au banquet céleste. Le lucernaire, c'est-à-dire un des versets de la prière du soir des Vêpres, dit « Frères, reconnaissons la puissance du mystère divin, car le Fils prodigue revient de son péché pour retourner au foyer paternel. Le Père, dans sa tendre bonté, vient à sa rencontre pour l'embrasser. Il le restaure dans la gloire de sa maison. Au ciel, il lui prépare un banquet mystique. Il fait tuer le veau gras pour que nous prenions part à sa joie, celle du Père qui offre par amour et celle de l'agneau qui s'immole pour nous, le Christ, sauveur de nos âmes. » Plusieurs fois, le mot « joie » est venu là. La véritable métanoïa, le véritable repentir, se fait dans la joie de la présence du Seigneur. Les premiers élans du repentir, qui ne semblaient relever que de la volonté libre du pécheur, ne sont en fait possibles que parce que l'économie de la rédemption est déjà accomplie et que le Christ a ouvert ces fameuses portes du repentir dont je parlais au début. La filiation est rétablie et restaurée par le sacrifice du Seigneur. Il reste simplement à l'actualiser pendant le carême par les œuvres de l'ascèse et de l'amour du prochain afin de faire de la sainte quarantaine une petite Pâque au jour le jour. Ô Christ qui nous montre ce chemin, soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.